Bonjour, je suis Sylvain Trinel, journaliste Tech & Co, et je vais vous raconter la saga Netflix. Je vous le disais au début de ce podcast, retraçons son histoire, Netflix a réussi un virage très enviable au nez et à la barbe des studios hollywoodiens et des majors d'Internet. Depuis son arrivée sur le marché, la marque s'est forgée une solide réputation au point de devenir, en quelques années, l'un des marqueurs d'une certaine idée de la pop culture. À l'instar du logo marqué d'une pomme croquée d'Apple, que l'on voit apparaître dans tous les programmes cool, le Todoom, comme l'expression Netflix and chill, littéralement regarder Netflix et ne rien faire d'autre, se sont inscrits dans la culture populaire avec une facilité déconcertante. Au nez et à la barbe de ses concurrents, car à l'époque où Netflix n'est encore qu'un petit pousset dans les producteurs de programmes, les chaînes, tout comme les grands studios de cinéma, ne comprennent pas tout de suite que l'avenir sera justement à la SVOD. On sent néanmoins qu'avec les années, la prise de conscience est réelle. Mais celle-ci intervient probablement bien trop tard pour enrayer la montée en puissance de celui que l'on surnomme aujourd'hui bien justement le géant de la SVOD. Cette approche, j'ai voulu comprendre ses tenants et ses aboutissants en allant discuter avec Netflix, dont la division française est désormais incontournable dans le secteur de la production audiovisuelle. Bonjour Anne-Gabrielle Dobat-Portanache.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente communication et relations publiques Netflix en France et en Europe du Sud. Ça va, vous arrivez à la rentrée sur LinkedIn?
Je dois faire des choix, c'est pas évident. Mais je tiens aussi à la région Europe du Sud, ce que j'appelle Club Med, avec mes équipes, car voilà, c'est la plus belle région.
Elle est importante. Alors là, en fait, les 10 ans de Netflix en France, c'est une date qui est très importante pour le public français parce qu'ils ont enfin pu accéder à Netflix. Quel bilan vous tirez de ces 10 ans ?
C'est une grande fierté d'avoir été choisie par les Français pour devenir vraiment l'un des acteurs incontournables dans leur choix de divertissement. On peut dire qu'on est au cœur du salon des Français. Donc c'est d'abord une grande fierté. Et puis c'est 10 ans d'aventure, 10 ans de contenu et de séries, de films, de documentaires, bien sûr de Lupin à Sous la Seine, en passant par Nouvelle École, à Tapis. Donc voilà, de grands contenus, de grandes créations. Et puis beaucoup de grands événements aussi, qui réunissent des fans autour de séries aussi telles que Stranger Things, telles que Wednesday, qui créent voilà, des grands moments de bonheur.
En 10 ans, Netflix a réussi à s'imposer comme la plateforme de SVOD de référence en France, mais aussi partout dans le monde. Je pense qu'il n'y a aucune plateforme qui a autant d'abonnés que Netflix. Comment vous expliquez cet attrait pour la marque d'abord et la plateforme d'une manière générale ?
Je pense que la première réponse, c'est très certainement la qualité de nos contenus et la diversité, c'est-à-dire qu'on propose une grande variété, diversité de contenus entre le documentaire, la série et le film. J'ose espérer que la grande majeure partie sont des contenus de qualité. C'est la possibilité aussi depuis votre salon de voyager en Corée, de voyager dans les pays nordiques, en Israël, en Italie, en Espagne. Donc aussi cette ouverture sur le monde est quand même une chance extraordinaire de se dire que vous pouvez apprendre d'autres pays, d'autres cultures, d'autres formes de narration. Et puis avec une expérience ici de visionnage qui est très simple, c'est-à-dire que vous pouvez regarder ce que vous voulez, quand vous voulez. Donc, quel que soit également le support, téléphone, tablette. Donc, je crois qu'aussi, ça a beaucoup facilité la vie des Français.
Vous parliez des contenus effectivement étrangers qu'on avait peu l'habitude d'avoir, si ce n'est sur le satellite éventuellement, pour des séries coréennes, etc. Alors Netflix, ils sont aussi très actifs au niveau des productions françaises. La France, justement, elle fait partie des bons élèves. Vous parliez d'une vingtaine de projets par an. C'est assez énorme, assez conséquent. On se souvient surtout des succès internationaux de Balles perdues. Vous parliez de Sous la Seine, qui est le film étranger par excellence sur Netflix. Comment ça fonctionne chez Netflix pour sélectionner des films qui vont devenir potentiellement des énormes hits? Est-ce que vous vous attendiez à ce que Sous la Seine, même s'il y avait les JO, etc., à ce que ça devienne le carton que c'est devenu?
On ne sait jamais. C'est vraiment une entreprise, un métier de prototypage, d'artisanat presque, c'est-à-dire que tout part d'une écriture. Bien évidemment, il y a une excellence créative qui est portée, une attention par rapport au respect du genre, si c'est effectivement un film de genre comme Sous la Seine, un film d'action. Donc, toutes nos équipes de créatifs apportent beaucoup d'attention là-dessus en partenariat avec toutes les sociétés de production avec qui on travaille, mais on ne sait jamais. Des succès comme typiquement Le Jeu de la Dame ou Squid Game, on ne l'a pas vu venir. Et à l'inverse, il peut y avoir d'autres choses, on s'est dit ah, ça va être un succès, ça n'en est pas, ou pas autant qu'on le souhaiterait. Donc on ne sait jamais totalement. À chaque fois, les équipes font mettre voilà, tout leur cœur pour essayer de livrer les meilleures histoires possibles.
L'autre gros sujet de la France, c'est la fameuse chronologie des médias. Vous travaillez comment sur cette question exactement ?
C'est assez simple. Déjà, on est le seul acteur à avoir signé cette chronologie des médias.
Donc vous êtes à 15 mois aujourd'hui.
On est à 15 mois. On est passé de 36 à 15 mois. Donc, un saut quantique.
Oui, mais c'est vrai.
Qui est encore beaucoup trop long quand on regarde les usages de par le monde, où dans la plupart des pays, on est plutôt à 3 mois, 1 mois et demi. Mais ce qui est important quand même de rappeler, c'est que le business model quand même de Netflix n'est pas celui de la salle. Il y a des acteurs qui font très bien ça pour la salle. Nous, une approche qui est différente, qui est vraiment de permettre finalement à nos abonnés de voir immédiatement les contenus auxquels ils ont financé, puisque c'est eux qui financent ces contenus sur le service Netflix. Donc effectivement, dans un esprit de dialogue et de constructif, nous avons signé cette chronologie des médias qui nous permet finalement, dans le cadre de nos obligations, de faire des acquisitions de films de cinéma et d'avoir de pouvoir les diffuser sur Netflix 15 mois après, donc soit en première fenêtre ou en deuxième fenêtre.
Il y a Le Garçon, Léo Héron, typiquement. Hein,
il y a Jeanne Dubéry. Alors, pour les obligations françaises, Jeanne Dubéry, qui est le premier film dans le cadre de nos obligations d'investissement qui est disponible. Il faut savoir que c'est à peu près 50 millions d'euros par an et à peu près 18 films qu'on peut retrouver 15 mois après sur Netflix. Et puis après, hors chrono des médias en France, il y a toutes les autres acquisitions qu'on fait dans le monde, mais là, ce n'est pas soumis à cette chrono des médias.
La chronologie des médias, elle s'est radoucie d'une certaine manière il y a quelques mois seulement. Vous en êtes satisfaite, j'imagine ?
Non, on pense que si on regarde sincèrement les usages, la façon dont maintenant le grand public consomme, on pense que ça reste c'est toujours beaucoup trop long. Attendre 15 mois pour regarder un film, c'est extrêmement long. Il y a très certainement une opportunité de réduire cette fenêtre après avoir pu avoir un temps d'exploitation en salle satisfaisant et pouvoir le retrouver beaucoup plus tôt sur le service, surtout quand on regarde les usages un peu partout dans le monde.
Alors Netflix, ce ne sont pas que des programmes, malgré tout. Hein, c'est aussi et surtout une communication 2.0 très vivante. Vous avez fait comment pour imposer votre marque sur les réseaux sociaux. On voit, hein, quand je compare le compte Netflix France sur X à des comptes comme HBO, comme Disney+, qui sont quand même des marques implantées depuis plus longtemps, on sent quand même que les fans sont bien plus présents quand c'est Netflix qui parle. Comment vous expliquez ça ?
C'est une très bonne question. C'est un travail de longue haleine de la part des équipes. On essaie vraiment d'être en conversation avec les fans, d'être vraiment en conversation avec nos abonnés, d'être à leur écoute, de vraiment avoir ce lien le plus direct possible. On sait qu'on fait œuvre de divertissement, donc aussi il ne faut pas trop se prendre au sérieux quand même malgré tout, et garder cette authenticité, apporter des réponses lorsqu'on en a. Puis on se raccroche aussi au plus près des programmes que l'on propose. Et c'est ça que l'on essaie de faire, c'est-à-dire qu'une série comme Sex Education portera des thématiques très fortes, et ben on va investir ces thématiques, on va les travailler auprès de nos abonnés, auprès du grand public, parce que ça soulève des problématiques sociétales très importantes, l'acceptation de soi, la différence, etc. Donc c'est aussi, je pense, cette approche-là qui paye, c'est vraiment être au plus près de nos programmes, de ce que racontent, des messages que portent de ces programmes, et de pouvoir ensuite les étendre dans la vie réelle et voir comment ça rebondit et ça trouve un écho vis-à-vis du grand public.
Maintenant qu'on a fêté les 10 ans, est-ce qu'on peut se projeter un petit peu dans l'avenir ? Alors peut-être pas jusqu'à 10 ans, mais en tout cas dans les prochaines années, pour vous, ça ressemblera à quoi Netflix ?
On espère qu'on sera toujours l'un des acteurs de divertissement préférés des Français dans le monde entier, qu'on fera toujours des séries formidables et des films formidables avec des modes de narration très différentes. On sera créatif dans cette approche. Ce sera très certainement plus de jeux qui seront proposés aussi sur le service. Donc, on peut imaginer tout un certain nombre de choses, mais je crois que c'est surtout le grand public et le consommateur qui décide.
Vous avez parlé des jeux, mais c'est vrai qu'il y a un espèce de serpent de mer qui revient très régulièrement quand il y a une Netflix. C'est les séries quotidiennes, les feuilletons quotidiens. On voit que TF1 s'y est mis depuis déjà plusieurs années, France Télé, mais aussi M6, bientôt en 2025. Est-ce que Netflix, parce que c'est une particularité française, on peut s'attendre dans les prochaines années à voir débarquer une série quotidienne ?
Pourquoi pas ? On dit, il y a un principe chez Netflix, c'est jamais dire jamais, c'est d'être vraiment à l'écoute des tendances, des attentes, etc. Et on essaie de voir après s'il y a un chemin qui peut être intéressant par rapport, nous, à notre modèle. Donc pourquoi pas ?
Merci beaucoup, Gabrielle Doba-Fontanacci. Je vous rappelle que vous êtes vice-présidente de communication et relations publiques Netflix en France et en Europe du Sud. Puis bon, on se retrouve peut-être dans 10 ans pour un nouveau podcast.
Absolument, avec joie.
Merci
beaucoup.
Au revoir. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de la saga Netflix. Le visionnage est malheureusement terminé, mais vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur bfmtv.com et sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.